VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manirakiza à la présentation de cette édition du jeudi 8 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a passé sa première nuit en prison. Les pays du G5 Sahel et la France tiennent un sommet de mai vendredi. Le Conseil de sécurité se penche sur le contentieux du grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. Au lendemain de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, 4 personnes qualifiées de mercenaires ont été tuées. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Afrique du Sud, Jacob Zuma a passé sa première nuit en prison. L'ex-président de la nation arc-en-ciel a été condamné pour avoir refusé de se présenter devant la commission anticorruption. Claire Morizibourg.
La nuit dernière, un convoi de véhicules a quitté la résidence de Jacob Zuma à Nkandla, en Pays Zoulou, pour se rendre à la prison moderne d'Escour, à quelques 200 km. La semaine dernière, la plus haute cour du pays l'avait condamné à 15 mois de prison ferme pour avoir souvent refusé de témoigner devant la commission anticorruption. Après plusieurs recours, ces derniers jours, Jacob Zuma a fini par se constituer prisonnier. Il ne s'agit pas d'un aveu de culpabilité, a affirmé son porte-parole. Le ministre de la police, Bekki Sélé, qui s'était montré hésitant à l'arrêter, a finalement changé d'avis en se disant obligé de respecter la loi. Le ministre de la Justice, Ronald Lamola, a précisé que, comme tout détenu, Zuma pouvait espérer une libération conditionnelle au bout d'un quart de sa peine, soit un peu plus de 3 mois. Ancien freedom fighter ou combattant de la liberté aux côtés de Nelson Mandela, avec qui il a passé 10 ans en prison, Jacob Zuma, 79 ans, avait aussi été surnommé Teflon pour son talent pour échapper à la justice.
Des hommes armés surnommés des bandits dans le nord-ouest du Nigeria ont tué 18 personnes dans un village de l'état de Katsina. Un nombre important de combattants sont arrivés sur des motos dans le village de Tsowa, dans le district de Batsari, lundi soir, tirant sur les habitants, pillant les habitations et mettant le feu aux maisons, a fait savoir Gambo Issa, le porte-parole de la police. La France et les pays du G5 Sahel se réunissent demain vendredi pour la première fois depuis que Paris a annoncé la réduction de sa présence militaire. Le Tchad et le Mali essaient de traverser des transitions politiques délicates et les djihadistes restent très actifs dans la région. Le point avec Nanit Talani.
Selon un haut responsable au secrétariat du G5 Sahel, la redéfinition de l'opération Barkhane sera au cœur des débats. Le président français Emmanuel Macron va s'entretenir à distance avec ses homologues du G5 Sahel pour évoquer la fin prochaine de l'opération Barkhane avec une revue à la baisse des effectifs, la fermeture des bases militaires et une réarticulation de la lutte anti-djihadiste autour d'une alliance internationale associant des Européens. Seul le président nigérien Mohamed Bazoum sera à Paris. Cette transformation ne signifie pas le départ du Sahel, ni que nous allons ralentir nos opérations de contre-terrorisme, a déclaré Florence Parly, la ministre française des armées qui est attendue demain à Washington. D'après le Pentagone, les États-Unis veulent continuer à soutenir les opérations contre les djihadistes au Sahel. La France veut passer d'un statut de force en première ligne à celui de force d'accompagnement et d'appui. Les groupes djihadistes multiplient les attaques dans de vastes territoires du Sahel, provoquant chaque semaine de lourdes pertes au sein des forces armées locales et des civils.
Le Burkina Faso va installer 900 caméras de vidéosurveillance à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso afin de renforcer la sécurité des deux grandes villes du pays, a annoncé jeudi le ministre de la Sécurité. Dénommé Smart Burkina, ce système de vidéoprotection sera déployé sur 220 sites dans la capitale burkinabé et 80 à Bobo-Dioulasso, a précisé Maxime Koné lors de la cérémonie de lancement. En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé mercredi avoir détruit 5 caches des membres d'une groupe armée des forces démocratiques alliées ADF dans le nord-est du pays. Une source humanitaire dans la région a indiqué que les forces régulières ont effectivement pilonné lundi et mardi des camps des ADF. Un responsable local de la société, Dieudonné Malangaï, a confirmé ces bombardements par hélicoptère. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont placées depuis le 6 mai en état de siège. Le grand barrage de la Renaissance, construit par l'Éthiopie sur le Nil Bleu, fait l'objet ce jeudi d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Il suscite de vives tensions avec le Soudan et surtout l'Égypte qui dépend entièrement de ce fleuve pour son approvisionnement en eau. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'Éthiopie affirme que le barrage ne va pas perturber le débit de l'eau. L'Égypte s'inquiète du remplissage du barrage d'une capacité de 74 milliards de mètres cubes. Si le réservoir est rempli sur une courte période, l'écoulement de l'eau du Nil à travers l'Égypte pourrait fortement baisser. Le Caire voit dans ce projet une menace existentielle et le Soudan a mis en garde contre des grands risques pour la vie de millions de personnes. Après 9 années de blocage dans les négociations, les États-Unis et la Banque mondiale ont parrainé à partir de novembre 2019 des discussions visant à trouver un accord qui ont échoué. Lancé en 2011 par l'Éthiopie pour un montant de 4 milliards de dollars, le projet vise à construire le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique avec une capacité de production de près de 6 500 MW. Situé à une trentaine de kilomètres de la frontière soudanaise, le grand barrage de la Renaissance est long de 1,8 km. L'Éthiopie a entamé cette semaine la seconde phase de remplissage après la première phase intervenue mi-2020.
Au Soudan du Sud, aucune célébration officielle n'est prévue vendredi pour les 10 ans de son indépendance. Les autorités ont ordonné que la population fête cette journée en privé, officiellement en raison du Covid-19. Le seul événement public annoncé est une course de 10 km baptisée le Great South Sudan Run à Djouba, la capitale. Le vice-ministre a déclaré que le président Kiir tiendrait un discours public afin que tout le monde le voit sur sa télévision ou l'entende sur sa radio. Le pays naît officiellement le 9 juillet 2011, avant de plonger dans une sanglante guerre civile, n'a plus tenu de cérémonie à cette occasion depuis 2014.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, 4 personnes qualifiées de mercenaires ont été tuées et 2 autres arrêtées au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse, un assassinat qui a choqué Haïti et la communauté internationale et menace de déstabiliser davantage un pays déjà fragile. Les précisions de John Lyndon.
Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est réuni en urgence et à huis clos ce jeudi, a réclamé que les auteurs de l'assassinat soient rapidement traduits en justice. Pour l'instant, aucune information n'a filtré sur l'identité ou les motivations des assaillants. D'après le juge chargé de l'affaire, cité par la presse locale, sa dépouille a été retrouvée transpercée de 12 balles, son bureau et sa chambre ont été saccagés. La police a indiqué mercredi soir avoir pourchassé les membres présumés du commando aussitôt après l'attaque. Depuis cette nuit, nous nous battons contre eux, a déclaré dans une allocution à la télévision le directeur général de la police haïtienne. 4 mercenaires ont été tués, 2 ont été interceptés sous notre contrôle, a-t-il ajouté. L'épouse du président, Martine Moïse, blessée, a été évacuée vers Miami. Sa situation est stable et elle serait hors de danger, a affirmé mercredi soir le premier ministre intérimaire Claude Joseph à la télévision.
En Afghanistan, des combats entre talibans et forces afghanes faisaient rage jeudi pour le 2e jour consécutif à Kala Inao et des nuages de fumée noire s'élevaient au-dessus de cette capitale provinciale dans le nord-ouest de l'Afghanistan. Le gouvernement a envoyé par hélicoptère des centaines de commandos dans la province de Baghis pour contrer cette offensive talibane, la première contre une capitale provinciale depuis le début de la dernière phase du retrait des troupes américaines. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nanit Talani.
la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, le Nigeria et le Cap-Vert sont les seuls pays de la CEDEAO qui respectent les exigences minimales en matière de transparence budgétaire, a indiqué le département d'État américain dans son rapport 2021 qui félicite 16 pays africains. Cette classification couronne les efforts réalisés par les États africains pour améliorer leur transparence fiscale dans un processus d'assainissement de leurs dépenses publiques et de lutte contre la corruption. L'économie en Afrique subsaharienne devrait renouer avec une croissance de 2,8% cette année, puis de 3,3% en 2022, après une contraction de 2,4% l'an dernier due au Covid-19 selon la Banque mondiale. L'activité s'est partiellement redressée dans les trois plus grandes économies africaines, l'Angola, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais les incertitudes politiques et les effets persistants de la pandémie pourraient retarder d'importants investissements dans l'infrastructure et les industries extractives et freiner la reprise au Niger, en Centrafrique, en Guinée équatoriale et au Kenya. Pour terminer, cet énorme diamant brut de 1174 carats qui a été découvert le 12 juin au Botswana par la société canadienne Lucara et qui vole la troisième place à une autre pierre exceptionnelle trouvée quelques jours plus tôt le 1er juin dans le même pays par l'entreprise de Botswana. Cette découverte conforte le Botswana dans sa position de leader sur la scène mondiale des plus grosses pierres avec 6 des plus gros diamants au monde.
En transition, nous passons à votre page des sports. Nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Il n'y aura pas de spectateurs sur les sites des Jeux Olympiques à Tokyo. Les JO se dérouleront du 23 juillet au 8 août à huis clos sur les sites de la capitale japonaise. Bagasikura.
Oui, l'annonce a été faite par la ministre des JO, Tamayo Marukawa, qui évoque la recrudescence du coronavirus dans la capitale japonaise.
Lors de la réunion à 5 avec le CIO, l'IPC, le comité d'organisation de Tokyo 2020, le gouvernement de Tokyo et le gouvernement national, il a été décidé de n'avoir aucun spectateur sur les sites de Tokyo après l'annonce d'un nouvel état d'urgence virale dans la ville de Tokyo.
La plupart des sites des JO sont situés dans la capitale japonaise, mais certaines épreuves se déroule dans d'autres départements. Ces derniers prendront aussi des mesures concrètes en lien avec les organisateurs. Cette annonce intervient quelques heures après la décision du gouvernement nippon de remettre en place un état d'urgence sanitaire à Tokyo à compter de lundi jusqu'au 22 août. La ville recense chaque jour environ 900 cas de Covid-19.
Plus tôt dans la journée, nous avons tenu une réunion au siège de la réponse au Covid-19 et nous avons décidé de déclarer l'état d'urgence à Tokyo et nous avons prolongé l'état d'urgence à Okinawa jusqu'au 22 août.
À peine 15% de la population a été entièrement vaccinée jusqu'à présent. Le variant Delta, plus infectieux, représenterait désormais 30% des cas. Le Premier ministre veut parer à une augmentation des cas de contamination. Le relais de la flamme olympique se déroulera donc à huis clos à partir de vendredi dans la capitale japonaise. Quelques 11 000 sportifs sont attendus au JO de Tokyo.
Merci Bagassi. Football, l'Angleterre a rejoint l'Italie en finale de l'Euro en renversant la révélation danoise 2-1 après prolongation hier au stade de Wembley à Londres. Après l'ouverture du score de Mikkel Damsgaard à la 30e, sur un splendide coup franc direct, les Anglais ont répondu en poussant Simon Kjær à marquer contre son camp à la 39e, puis en prolongation, Harry Kane a marqué en deux temps sur un penalty. Transfert, Sergio Ramos rejoint le Paris Saint-Germain pour 2 saisons. L'annonce est faite par le club parisien qui offre ainsi un dernier défi à l'emblématique défenseur espagnol de 35 ans, parti du Real Madrid à contre-cœur. Avec le champion du monde 2010 et double champion d'Europe 2008 et 2012 qui arrive libre, le club de la capitale française embauche une icône du football espagnol, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions. Ramos est un rare défenseur buteur qui assumait dernièrement la responsabilité de tirer les pénaltys au Real et compte 101 buts inscrits en 671 matchs avec le club madrilène. C'est une nouvelle recrue de choix pour le directeur sportif Leonardo, après le milieu néerlandais Jorginho Wijnaldum et le latéral marocain Achraf Hakimi. En attendant, peut-être le gardien italien Gianluigi Donnarumma.
Merci à toi.
d'aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Tchad, le coordinateur national de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, Kassido Mahamat Dingandimbaye, a rendu visite ce matin aux prisonniers de guerre de la maison d'arrêt d'Ndjamena. Cette visite était initialement programmée avec la presse, mais les journalistes n'ont pas eu accès dans les locaux de la maison d'arrêt. À la fin de la visite sans presse, le coordinateur de la Kassido se dit préoccupé de la situation de ses prisonniers et entend saisir le ministère de tutelle. Il est au micro de André Kodimajingar, notre correspondant à N'Djamena.
On a eu un entretien direct avec les prisonniers de guerre. C'est émouvant qu'il y a réellement 505 prisonniers de guerre. Parmi les 505, l'on note 411 adultes et 94 mineurs. Eh bien, sur les 505 prisonniers de guerre, il y a eu 3 morts. Un par suite des blessures et 2 d'une mort naturelle.
En discutant tête à tête avec ces prisonniers, quel est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils sont bien nourris et bien soignés?
Un prisonnier ne peut pas dire qu'il est à l'aise à 100%, mais ce qui nous a surpris, c'est qu'on a vu des mineurs et des adultes qui ont le moral. C'est ça ce qui est important. Et ils veulent très rapidement que l'instruction finisse afin qu'on puisse les situer sur leur condamnation ou non. C'est vrai, le volet alimentation, au départ, c'était notre inquiétude, mais eux-mêmes nous ont fait savoir qu'au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, l'alimentation est tout à fait normale. Et le régisseur également a confirmé cela parce qu'au début, ce n'était pas prévu dans le budget également de la maison d'arrêt. On a vu également des prisonniers qui sont malades, qui sont surtout des blessés de guerre. Donc, ces blessés-là également sont pris en charge normalement ici au niveau de l'infirmerie, mais des cas graves sont traités au niveau externe parce que le plateau technique de la maison d'arrêt n'est pas adéquat. De par les échanges qu'on a eus avec eux, beaucoup nous disent, à la sortie, c'est-à-dire de la maison d'arrêt, ils pensent déjà à une autre vie. Beaucoup regrettent d'être enrôlés dans la rébellion. Est-ce qu'ils ont été trompés? On ne sait pas. Certains qui sont partis peut-être d'eux-mêmes, mais quand on les pose la question, ils disent franchement, si aujourd'hui on les libère, plus jamais ils ne feront cela. En tant qu'acteurs de la société civile, nous lançons un appel à tous les Tchadiens ayant pris les armes comme une option d'expression. Nous leur demandons de privilégier les dialogue.
Au vu de ce constat, avez-vous une recommandation particulière aux autorités de transition au sujet donc des blessés graves et des mineurs incarcérés?
Les 94 enfants mineurs devant nous, 20 ont été retirés de la prison pour être amenés dans un centre de réinsertion. Et après le centre de réinsertion, ils seront livrés automatiquement à leurs parents. L'information qu'on a eue également sur les 94 mineurs, aucun ne serait l'objet d'une poursuite judiciaire. Lors de nos échanges avec les prisonniers qui sont malades, ils veulent être soignés vraiment à temps. Mais en tant qu'acteurs de la société civile et militants des droits de l'homme, nous allons faire le rapport écrit que nous allons déposer au niveau du ministère de la Justice et des Droits Humains, que nous allons recommander pour que toutes ces imperfections constatées puissent être réparées.
Vous avez donc eu l'autorisation des autorités compétentes qui, en principe, vous permettra donc de visiter ces prisonniers de guerre accompagnés de la presse. Pourquoi la presse n'a pas eu accès?
Je pense dans l'autorisation de visiter les prisonniers, il est mentionné que les visites doivent se faire sans appareil de communication.
Mahamat Dingandimbaye, coordinateur national de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, au micro de André Kodimajingar, notre correspondant à N'Djamena.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À quelques semaines de la fête de Tabaski, les marchés à bétail de la capitale Bamako commencent à faire le plein. Par peur des hausses des prix de dernière minute, des citoyens anticipent leur achat, mais le constat sur place est que les prix sont encore élevés. Reportage au marché à bétail de Faladier de notre correspondant Mohamed Danyoko. Allez, on va attendre.
Cette scène de marchandage se déroule au marché à bétail de Faladjé, en commune 6 du district de Bamako. Venu très tôt acheter le mouton de la fête de Tabaski pour éviter les hausses de prix de dernière minute, Moussa Kone se rend compte que les prix sont élevés. Je suis venu très vite acheter un mouton, croyant que j'allais bénéficier des prix abordables. Mais je me rends compte que les prix n'ont pas changé entre l'année dernière et cette année. Si les prix restent inchangés, on va certainement se mettre en plusieurs pour acheter un bœuf et se partager la viande le jour de la fête. Je voulais un mouton de 100 000, mais tout ce qu'on me propose jusque-là sont au-delà de cette somme. Voilà. Ce prix jugé élevé par les acheteurs est dû, selon les vendeurs, au coût de l'aliment bétail et des conditions de transport de moutons des régions du centre vers la capitale Bamako. C'est très difficile pour nous. Nous vendons souvent à perte. L'aliment bétail coûte très cher de nos jours. Le sac de tourteau coûte 10 000 francs CFA et les conditions dans lesquelles nous acheminons les bêtes vers la capitale sont de plus en plus difficiles. Tout ça se répercute sur le prix à la vente. Si l'exportation du mouton vers les pays frontaliers sont souvent des explications à la flambée des prix, ils sont nombreux à espérer sur les opérations Tabaski organisées par l'administration qui permettent aux citoyens de se procurer le mouton à moindre coût. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Dans la plupart des pays africains, les cas de Covid-19 ont fortement augmenté depuis le mois dernier. C'est le cas en Ouganda, où 16 médecins sont morts de la maladie en juin, tandis que d'autres sont en soins intensifs. Un reportage d'Alima Atoumani à Kampala, relaté par Nathalie Barge.
L'association médicale ougandaise affirme qu'une centaine d'agents de santé sont morts dans le pays à cause de la pandémie de coronavirus depuis mars 2020. Le docteur Mukuzi Mwereza, secrétaire général de l'association, souligne que ce nombre a fortement augmenté le mois dernier.
Le pire moment a été les deux dernières semaines où nous en avons perdu 16. D'autres médecins sont en soins intensifs et nous croisons les doigts. 14 étaient des cliniciens actifs et ont très probablement contracté le coronavirus dans des hôpitaux.
La mort de 16 médecins coïncide avec une augmentation générale des cas de coronavirus le mois dernier. Avant l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions, le 5 juillet, l'Ouganda a enregistré 425 nouveaux cas, portant le nombre total à 85 000. Selon le ministère de la Santé, au moins 37 médecins sont morts pendant la pandémie. Le porte-parole du ministère, Emmanuel Enebiouna, reconnaît que les agents de santé dans les hôpitaux sont confrontés à des risques élevés en raison du manque d'équipements de protection, y compris de gants médicaux. Il dit aussi que le gouvernement a tardé à verser les primes de risque au personnel des unités Covid-19.
Yes, they might always be delays.
Il peut toujours y avoir des retards, mais ces retards sont parfois hors de notre contrôle, car ils dépendent de la disponibilité des ressources. Nous faisons de notre mieux en tant que gouvernement, c'est pourquoi le directeur général a donné une orientation sur le double masque. Aussi, nous nous engageons à faire en sorte que les agents de santé aient toujours le nécessaire dans les unités de traitement Covid et dans nos établissements de santé.
La semaine dernière, le chef de l'agence des fournitures médicales du ministère de la Santé, Moses Kamabaré, a déclaré que l'augmentation du nombre d'infections avait temporairement dépassé la capacité du ministère à fournir des équipements de protection individuelle à tous les hôpitaux qui en avaient besoin. Il a précisé que les livraisons élargies commenceraient la semaine prochaine.
Abdelrahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la troisième vague de COVID-19 en Afrique. Selon l'OMS, la vitesse de contamination et l'ampleur de la troisième vague qui touche le continent ne ressemble en rien à ce que nous avons connu jusqu'à présent, poussant plusieurs pays à rétablir des mesures de restriction. Pendant ce temps, la campagne de vaccination est à la traîne en Afrique, avec des gouvernements qui ont du mal à convaincre leur population de se faire vacciner. L'Afrique face à la troisième vague de COVID-19, c'est ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et VOA Écosse.
L'UNESCO vient de publier de nouvelles études sur l'éducation préscolaire et l'inclusion des enfants avec handicap dans le système éducatif. En Afrique, 2 enfants sur 5 ne vont pas à l'école maternelle. L'organisation onusienne exhorte les pays à respecter leur engagement de rendre l'enseignement préscolaire obligatoire et d'assurer l'inclusion de tous les enfants dans l'éducation. Nanit Talani a joint depuis Paris Florence Mijon. Point focal sur l'inclusion dans l'éducation au sein du secteur de l'éducation à l'UNESCO.
Ces deux documents rappellent tout d'abord que l'éducation dès la petite enfance est vraiment le fondement du développement humain, le fondement du développement d'une société, le fondement pour une égalité entre les sexes et pour une meilleure cohésion sociale. Donc ces deux documents appellent les pays, les partenaires à investir plus pour le développement d'une éducation de la petite enfance qui soit inclusive pour tous les enfants, garçons et filles, et ce à travers tous les pays.
Peut-on savoir combien d'enfants en Afrique sont concernés par cette situation ?
Difficile d'avoir des chiffres. Nous avons des chiffres globaux. On sait par exemple qu'au niveau mondial, on estime que 2 enfants sur 5, principalement dans les pays à revenus faibles et moyens inférieurs, donc c'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique, ne sont toujours pas inscrits à l'école pré-primaire. Mais les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique ont des pourcentages en moyenne plus faibles que les pays des autres régions. Donc l'Afrique se retrouve un petit peu en retard en ce qui concerne les taux d'inscription au pré-primaire et aussi dans l'inclusion d'enfants dans des programmes et des structures de petite enfance.
Avec 2 enfants sur 5, c'est quasiment la moitié des enfants en Afrique. Est-ce qu'il y a des pays qui sont sur la bonne voie pour essayer de résoudre ce problème en Afrique ?
Oui, tout à fait. Le rapport de l'UNESCO a montré des exemples intéressants, comme par exemple le Burundi, qui a montré le progrès le plus rapide dans les années 2010. D'autres pays ont stagné, comme le Congo, qui est resté à un niveau constant, le Niger et le Sénégal. Ce qu'on note, c'est que les progrès durables, si vraiment l'approche est une approche inclusive, au niveau des politiques, au niveau des pratiques et voire aussi au niveau des lois. Donc c'est très important que les pays adoptent cette approche intégrée qui part de la législation aux pratiques sur le terrain avec les enseignants et les enseignantes. On fixe comme seuil qu'il faudrait consacrer à l'éducation au moins 4% du produit intérieur brut et au moins 15% des dépenses publiques totales.
Quelles pourraient être les conséquences si aucune solution n'était trouvée à l'exclusion de certains enfants de l'éducation ?
Les conséquences, je pense, seraient à plusieurs niveaux. Au niveau de l'enfant et des familles lui-même, parce qu'un enfant qui exclut, qui ne reçoit aucune éducation, aura beaucoup de difficultés à s'insérer dans la société, à contribuer dans la société. C'est aussi une histoire de droit. Le droit à l'éducation est un droit humain fondamental et les pays se sont engagés à faire respecter ce droit. Il va y avoir aussi des conséquences au niveau de la société, parce que c'est une perte. Investir dans l'éducation, c'est pas juste mettre de l'argent de la part des pays dans l'éducation, c'est investir pour l'avenir. Pareil pour l'inclusion, c'est important d'investir. Donc perte au niveau de l'enfant, des familles, au niveau du droit, une grande perte au niveau de la société, et j'allais dire aussi au niveau de la planète tout entière. La pensée qu'on est tous sur un même bateau et on est interdépendants les uns des autres. Que ce soit les pays soi-disant riches du Nord et les pays du Sud, ils ont intérêt à collaborer, à travailler ensemble pour faire en sorte que vraiment chaque enfant ait droit à cette éducation de qualité pour lui, pour sa famille, pour la société et voire pour l'humanité.
Florence Mijon, point focal sur l'inclusion dans l'éducation au sein du secteur de l'éducation à l'UNESCO. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagnot, Joselle Morissin, Lionel Dunanira Gahima. Eric Manilakidze a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.